Gloire à Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver cet après-midi. Le temps passe vite. Voilà, depuis vendredi, où nous avons pu partager ces moments ensemble. Et ça va être l'heure de la séparation, du départ. Grand merci à votre pasteur, à sa famille, et à vous pour votre accueil fraternel. Et pour que cet après-midi, nous puissions encore nous tourner vers celui qui nous réunit, qui nous rassemble, vers la seule source de notre espérance qui est le Christ Jésus. Notre espérance n'est pas dans une religion, n'est pas dans une philosophie, une idéologie. Elle est dans ce Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver, nous les hommes, pour partager notre condition humaine. Dieu aurait pu ouvrir le ciel et dire, voilà, on pense à vous les hommes, on prie pour vous. Mais Dieu a pris la peine de descendre au milieu de nous et parmi nous afin de partager notre condition humaine, même si cela l'a conduit jusqu'à la croix. Oui, Jésus guérit les cœurs brisés, c'est ce que nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 18. Luc chapitre 4, le troisième évangile, l'évangile de Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint, consacré, mis à part, par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus nous dit ici pourquoi il est venu. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous avons tous, un jour ou l'autre, été blessés, et souvent par des personnes elles-mêmes blessées. On peut dire que depuis le péché d'Adam et Ève, c'est une réaction en chaîne qui fait que les hommes, de génération en génération, n'arrêtent pas malheureusement de se blesser. Et ces blessures ont pu même briser des cœurs. Après avoir blessé, nous avons à notre tour blessé, car lorsqu'on est blessé, on devient blessant. Et on a besoin de toute la grâce de Dieu pour cicatriser de ces blessures et pour ne plus être blessant, mais bénissant. Alors la cause de nos blessures sont multiples. Blessés par des actes, par des paroles, des comportements, des attitudes, qui peuvent être délibérés, involontaires, visibles ou invisibles, émotionnels ou physiques, infligés par d'autres ou par soi-même, cela part de simples coups jusqu'à des coups blessants. Les blessures peuvent relever de la négligence, de l'indifférence, du rejet, du mépris, de l'abandon, voire même de la haine, d'abus physiques, sexuels, émotionnels, intellectuels, verbales ou spirituels, qui peuvent laisser des traces passagères ou à vie, des traces visibles ou invisibles. Laurie a grandi dans une famille dysfonctionnelle avec un papa alcoolique, accro à la cigarette et à la paresse, et avec une maman qui était déficiente sur le plan psychologique. Elle a échappé à l'avortement et bien entendu, son malheur, c'est de naître dans une famille, en tout cas, où elle n'était pas désirée ni aimée. D'ailleurs, je remarque que ces prénoms désirés et aimés sont de plus en plus rares. C'est vrai qu'ils appartiennent au siècle passé. Mais enfin, à l'époque, ça voulait dire peut-être quelque chose. Quoique parfois, je me méfie des prénoms qui veulent dire quelque chose parce que la vie peut signifier le contraire. Mais bon, Laurie a grandi dans cette famille dysfonctionnelle et dans un foyer violent. Et donc, mal aimé, rejeté, méprisé, pas d'anniversaire, donc pas de cadeaux, pas de gâteaux, pas de photos, pas de bougies à souffler, rien de tout cela, pas d'amour, pas d'affection. Et quand, parmi ces multiples violences, il y avait une dispute dans le couple, Laurie se mettait derrière sa maman et elle disait à sa mère, « Vas-y maman, frappe-le, frappe-le !» Elle avait compris le rejet de son père, elle avait compris donc le mépris de son père, et elle essayait derrière sa mère de donner des petits coups de pied comme elle pouvait pour essayer de frapper son père. Son cœur a été blessé et son cœur a été brisé. Elle a grandi depuis, elle a grandi avec certaines séquelles et elle a besoin de vraiment rencontrer le Seigneur. Elle fréquente une communauté où l'évangile est prêché, où le nom de Jésus est annoncé. Elle n'a pas fait encore cette rencontre avec le Christ, mais son cœur brisé, son cœur blessé est un cœur révolté face à l'autorité, face aux adultes. Il n'est pas facile de pouvoir conduire Laurie véritablement à retrouver un équilibre. Et seul nous le savons, et c'est pour cela que nous l'avons mis en relation avec l'évangile, avec Jésus-Christ, seul nous savons que Jésus est celui qui est capable de guérir ces cœurs brisés. Ceux qui occasionnent les blessures le font généralement à ceux qui souvent sont les plus proches, parfois même les plus chers. Et même si ces blessures peuvent être faites par des personnes étrangères, des personnes passagères dans notre vie, les blessures les plus profondes sont souvent infligées par ceux qui, soi-disant, nous aiment. Nous l'avons lu dans Luc 4, 18. Le Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus seul est capable de guérir un cœur brisé. Alors quand un os est brisé, on sait que cela va prendre un mois, donc on le ressoude, on lui met un plâtre, après il y aura de la rééducation. Mais combien de temps faut-il pour guérir un cœur brisé? Sera-t-il un jour totalement ce cœur brisé guéri? Et seul notre Sauveur Jésus-Christ a cette capacité. Voilà pourquoi Jésus a pu dire dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. » Mais nous avons besoin, lorsque notre cœur est brisé, d'une guérison profonde. Les mots ont leur importance, certes, mais face aux mots, les mots M-A-U-X sont encore plus forts et plus profonds. Et nous avons besoin, au-delà des thérapeutes humains qui peuvent apporter beaucoup, nous avons besoin de l'action de Dieu qui, lui, va agir dans les profondeurs de notre cœur. Et parce que notre blessure est enracinée dans un sol bien plus profond que celui des expériences douloureuses de notre petite enfance, de notre adolescence, de notre jeunesse, eh bien, ce sol commun à tous les êtres humains, ce sol, c'est le sol du péché. Et si Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, il est aussi venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et souvent, parce que les gens ont été perdus, et parce qu'ils sont perdus, ils ont blessé. Et ceux qui ont blessé se sont perdus à leur tour. Et c'est dramatique lorsque nous sommes blessés par celles et ceux qui auraient dû être notre protecteur, notre paix, la source de notre joie, de notre réconfort. Et ces personnes-là nous ont trahis. Ont trahi notre confiance, ont trahi vraiment notre innocence, et notre cœur s'en est retrouvé profondément blessé et brisé. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais il est surtout venu pour ôter le péché, parce que blessé ou pas blessé, brisé ou pas brisé, tous nous sommes pécheurs et tous nous avons besoin de la grâce de Dieu. Certes, nous devons assumer notre responsabilité dans la guérison de nos blessures, dans le processus de guérison, de changement, de transformation, parce que pour guérir, il faut le vouloir. Et souvent, Jésus, dans l'Évangile, a pu dire « Veux-tu être guéri ?» Dieu fait appel à notre volonté. Il faut vouloir. Dieu peut et Dieu veut si nous le voulons. La guérison, la cicatrisation ne se feront pas sans nous. Dieu veut agir notre cœur, mais Dieu veut que nous lui donnions notre cœur. Et cette transformation fait appel aussi à cette puissance aimante, rassurante, juste. Cette puissance qui est capable de pénétrer dans mon esprit, dans mon cœur, la puissance même de la personne du Saint-Esprit. Et l'Esprit-Saint va se retrouver au cœur de ce processus de guérison. Parce que l'Esprit-Saint va m'amener vers la seule personne, à la fois compétente, suffisante, efficace, pour guérir mes blessures profondes, pour cicatriser mes blessures béantes. Le Saint-Esprit va me conduire vers cette personne qui a vaincu la mort et toutes nos morts, vers cette personne qui a la capacité de guérir toute souffrance, tout traumatisme violent, vers cette personne seule capable d'opérer un changement intérieur radical, d'abord dans mon cœur qui a été blessé, et peut-être ensuite dans le cœur de celle ou de celui qui m'a blessé. En tout cas, la guérison va commencer par moi. Elle ne commencera peut-être pas par celle ou par celui qui nous a blessés, mais elle commence par nous. Et ce qui nous est impossible, incapable, Dieu va le rendre possible et capable. Pardonnez, non, ça jamais. Ne dites jamais, parce que Dieu, lui, nous a pardonné le premier. Et son pardon nous donne la capacité d'être pardonnés, réconciliés avec lui, pour qu'à notre tour, nous ayons la capacité de pardonner l'impardonnable. Oui, Jésus est celui qui, par sa présence, rend accessible la guérison et la cicatrisation de mon cœur. La seule personne capable de répondre à tous ces critères, c'est bien entendu Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Dans Hébreux 13, 8, il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand je lis les évangiles, je vois ce que Jésus était capable de faire hier. Mais comme Jésus n'a pas changé, ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Voilà pourquoi nous témoignons d'un Jésus vivant. Voilà pourquoi notre frère a témoigné d'un Jésus qui a transformé sa vie. Et voilà pourquoi, à travers ces chants, nous vous disons que ce qui vous est impossible est aujourd'hui possible si vous croyez dans le Jésus de l'impossible. Jésus l'a dit dans Jean 14, 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et puis, je vais vous dire ceci. Jésus a promis que là où deux ou trois seraient assemblés en son nom, il serait au milieu d'eux. ni la Vierge Marie, ni Paul, ni Moïse, ni Mohammed, ni Confucius ne pouvaient faire une telle promesse. Mais Jésus est mort, il est ressuscité, et parce qu'il est vivant, il est présent au milieu de nous. Celui qui sauve est là, celui qui te guérit est présent, celui qui te délivre est là. Celui qui baptise dans le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Celui qui est là pour nous réconforter, pour cicatriser nos cœurs, il est vivant, il est là. Je ne prêche pas un mort, mais je prêche celui qui a vaincu la mort, Jésus-Christ, le Seigneur. Il est présent dans ce lieu. Voilà pourquoi ce lieu a toute son importance. Ce n'est pas le cadre, ce n'est pas le décor, ce n'est même pas notre présence, mais c'est sa présence. Et je peux vous dire que la majorité d'entre nous ne serions pas là si Jésus-Christ ne s'était pas manifesté dans notre vie. Ce qui nous a fait sortir de nos chaumières confortables, ce qui nous a arraché de nos tables savoyardes pour nous amener ici, dans la présence du Seigneur, c'est bien Jésus-Christ le Seigneur. Il y a dans la vie des choses qui n'auraient jamais dû vous arriver et qui vous sont quand même arrivées. Il y a dans la vie des choses qui n'auraient jamais dû vous arriver et qui vous sont arrivées quand même. Dans votre petite enfance, votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse ou même plus tard. L'inceste, le viol, la violence familiale ou conjugale, l'humiliation, le mépris, la séquestration, la négligence, l'indifférence. Le drame, c'est quand vous allez vous retrouver dans un milieu malsain, où vous allez exposer votre problème, mais parce que le milieu est malsain, ils vont chercher à vous éliminer, vous et votre problème, sans essayer de vous aider, de vous secourir. On n'aime pas, dans certains milieux malsains, on n'aime pas entendre les gens se plaindre de leurs problèmes, parler de leur cœur brisé, de leurs blessures, et on met un processus en marche pour liquider tout le problème et la personne. Et ça, c'est dramatique. Et puis, il y a des choses qui auraient dû arriver dans votre vie, mais qui ne sont jamais arrivées. Le manque d'amour, le manque d'affection, de considération, d'attention, une parole d'encouragement. Ce qui a généré chez vous une mauvaise estime de votre personne, un manque de confiance, une dépréciation de vous-même. Et souvent, malgré vos propres efforts, vous n'arrivez pas à changer ce que vous pensez, ce que vous êtes en profondeur. Vous avez peut-être le sourire, vous avez peut-être les apparences, mais souvent, quand vous êtes seul, vous pleurez. Et ce manque d'amour peut parfois engendrer des addictions. Les uns vont se jeter dans la drogue, d'autres dans la pornographie, d'autres dans le travail, d'autres dans tout un tas d'addictions pour compenser, pour se faire une place dans la société. D'autres, certains, vont même se faire remarquer par un comportement excentrique ou à l'inverse, avoir une conduite complètement effacée. Au final, certains vont reproduire même les mêmes comportements de leur environnement toxique et nocif et ils vont à leur tour, sans le vouloir peut-être, blesser comme ils ont été blessés. Dans certains cas, ne soyons pas les enfants de nos parents, mais des parents pour nos enfants. Ne soyons pas des parents trop occupés, trop fatigués, trop importants, trop distants, trop exigeants. Sachez que l'amour ne se mérite pas, parce que l'amour n'a pas besoin de motif pour aimer. L'amour aime. Dieu est amour. Il nous aime non pas pour ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. L'amour de Dieu ne se mérite pas. Dieu donne son amour. Dieu nous aime. Et je peux vous dire que dans notre péché, en tant que pécheur, Dieu nous a aimés. Et c'est parce que, en tant que pécheur, j'étais surpris par l'amour de Dieu que cet amour m'a transfiguré, m'a métamorphosé. J'étais élevé dans une religion. J'étais élevé dans un système parental qui est un système d'après-guerre, avec une certaine rigidité, avec peut-être ce manque de tendresse ou d'affection parce qu'on avait peut-être honte, et surtout les pères avaient peut-être honte de montrer de la tendresse, de l'affection à leurs enfants, d'être tenus dans les bras de son papa. Moi, je puis vous dire que mes trois enfants, Rachel, Esther et même mon grand garçon Jean-David, qui fait 1m90 et il pèse, hein, ça reste dans les archives, mais même quand il vient, il est venu là à Noël, je le serre dans mes bras, je fais un plaquage, je le serre dans mes bras, il pourrait me renverser, mais je le serre dans mes bras. C'est quand même le petit dernier, hein, même s'il me dépasse. Je le serre dans mes bras. L'amour ne se mérite pas. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Qui que tu es, qui que tu sois, quoi que tu aies fait ou pas, Dieu t'aime. 1 Jean 4,7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est dans sa nature de nous aimer. Dieu n'attend pas que nous méritions son amour, il nous aime. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, parce qu'il sait qu'on ne le sera jamais. Dieu nous aime. Je me souviens de cette dame qui était venue un jour à l'église, et qui m'a dit, « Pasteur, j'ai honte. » Je dis, « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Bien, j'ai honte de demander l'aide de Dieu. » Parce que quand tout va bien, je ne me suis pas tourné vers lui. Mais maintenant que ça ne va pas bien, j'ai honte de me tourner vers lui. Écoutez, madame, si quand tout va bien, vous avez honte de vous tourner vers Dieu, et puis quand tout va mal, vous avez honte aussi de vous tourner vers Dieu, mais quand est-ce que vous allez vous tourner vers Dieu ? Alors, madame, n'ayez pas honte. Si c'est ces circonstances-là que Dieu a choisies pour vous, vraiment, tournez-vous vers le Seigneur et voyez le Seigneur agir dans votre vie. Je vais dans Matthieu chapitre 7, verset 24, c'est le premier évangile. Jésus dit ceci, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis, les paroles du Christ, et ne les met pas en pratique, ressemble à un fou, un insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été surprenante, étonnante. Sa ruine a été grande. » Voilà deux maisons qui, somme toute, sont identiques, qui traversent les mêmes épreuves. Car fondées sur le rocher ou fondées sur le sable, eh bien, les pluies sont tombées, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Sauf que l'une va tenir et l'autre, au grand étonnement, eh bien, va s'effondrer. Parce que les apparences sont trompeuses. On peut dans ce monde avoir des gens qui semblent vaincre toutes les adversités. Mais qu'on soit chrétien ou pas, nous traversons tous des épreuves. Tous nous traversons des difficultés. Mais ce qui va faire la différence, c'est notre vie et les fondements, la fondation de notre vie. Et c'est ce qui fait la différence ici, c'est que c'est ce qui est caché, ce qui est invisible, ce sont les fondations. La première a des fondations solides parce que c'est le roc, l'autre a des fondations fragiles parce que c'est le sable. Et ces deux maisons symbolisent, comme je le disais, deux vies bâties sur deux fondements diamétralement différents. Soit nous bâtissons sur nous-mêmes, sur notre propre capacité, notre propre gloire, notre propre personne, nos propres qualités, soit nous bâtissons notre vie sur Jésus-Christ. Les apparences peuvent être trompeuses. On peut avoir des gens qui ont réussi dans la vie, mais pas forcément leur vie. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont du succès, mais la réussite ne suffit pas, parce que le sable est un fondement mensonger. Et puis il y en a qui rêvent, quand j'aurai de l'argent, alors je serai heureux. Quand je serai marié, alors je serai heureux. Quand j'aurai des enfants, alors je serai heureux. Quand je réussirai professionnellement, alors je serai heureux. Quand j'aurai tant de followers sur mon site, alors je serai heureux. Mais alors n'est jamais assez. Alors a besoin de toujours plus. Et construire sa vie sur les fondements de ce monde n'aboutira jamais à une pleine satisfaction. Il manquera toujours quelque chose. En Jésus-Christ, Dieu nous comble. Dieu nous aime et Dieu nous donne au-delà de toute espérance. Il nous donne même la capacité de nous suffire avec ce qu'il nous a donné et de ne pas convoiter toujours plus. Dieu sait exactement qui nous sommes. Il sait que nous ne sommes pas des super saints, des super héros, des super aimables, des super autre chose. Dieu n'attend pas que de nous que nous soyons parfaits ou que nous accomplissions des exploits irréalisables. Car c'est lui qui est le Dieu de l'impossible. Luc 1,37, ce qui est impossible aux hommes est toujours possible à Dieu. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Alors, construire sa vie de couple, ses enfants, son activité professionnelle sur soi-même ne sera jamais suffisant. Cela aura toujours les limites de l'humain. Aujourd'hui, Jésus vous appelle à quitter le sable. Jésus vous appelle à quitter cet égocentrisme, cette vie centrée sur vous-même. Jésus vous appelle à quitter vos limites humaines et à vous tourner vers le Dieu de l'impossible, à abandonner vos faillites personnelles pour vous abandonner à ce Dieu puissant et glorieux, à abandonner votre désespoir pour vous tourner vers celui qui est l'espérance. Il est temps de faire une cure de détox de votre culte du moi pour laisser Jésus régner en vous. Et Paul l'a dit très bien dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, je suis mort à moi-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous avons tous besoin de ce que Jésus vive en chacun d'entre nous. Imaginez toute la ville d'Annecy, dans laquelle Christ est au centre et que chaque habitant a Christ dans son cœur. Vous pouvez laisser votre maison ouverte, laisser votre voiture ouverte, vous pouvez traverser sans vous faire incendier ni écraser. C'est une transformation radicale. Et ça, ça viendra, ça s'appelle le millénium. Un jour, le règne de paix, Dieu montrera que lui seul est capable d'apporter la paix, que ni l'ONU, ni l'Europe, ni qui ou quoi que ce soit ne peut apporter la paix, parce que la paix, elle commence chez toi, elle commence chez moi, elle commence en nous. Comment voulez-vous que le monde ait la paix si ceux qui font le monde ne sont pas en paix? Comment voulez-vous que le monde soit guéri si ceux qui font le monde ont le cœur brisé, ont le cœur blessé? C'est impossible. Vous pouvez toujours repeindre les cages de vos escaliers, de vos immeubles. Vous pouvez changer les boîtes aux lettres. Vous pouvez repeindre vos voitures qui ont été rayées par des clés, par des gens qui sont jaloux, je ne sais pas trop quoi. Vous recommencerez tous les ans. Parce que ce n'est pas nos immeubles qu'il faut repeindre, mais c'est notre cœur qu'il faut guérir. Par la foi en Jésus-Christ, la malédiction de la blessure, la malédiction de la brisure, la malédiction du péché a été brisée. La bénédiction divine est accessible. Il est temps pour vous de changer de fondement. Abandonnez le sable pour le rocher des siècles. Abandonnez ce qui est de l'humain pour vous tourner vers Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme pour vous sauver, vous, homme. Nous ne pouvons pas guérir seuls. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas gérer nos blessures seuls. Nous ne pouvons pas contenir les choses qui nous ont offensés seuls. Pour la simple et bonne raison que souvent ces blessures ont à voir avec les relations. Avec les relations. Mais je ne suis pas sûr que si vous étiez seul sur une île, que vous n'arriveriez pas à vous blesser vous-même. J'en suis pas sûr. En tout cas, toutes les blessures viennent par les relations humaines. Que ce soit par nous-mêmes, la famille, les amis, les chrétiens, les pasteurs, les collègues de travail, les voisins, le conjoint, les enfants, les petits-enfants. Toutes nos blessures sont relationnelles. Elles sont relationnelles. Voilà pourquoi vous n'êtes pas seul pour guérir et à guérir. Vous avez besoin de votre épouse ou de votre époux. Vous avez besoin de vos enfants, de vos petits-enfants. Vous avez besoin de votre pasteur, des anciens, des frères, des sœurs en Christ, d'un voisin, d'un collègue de travail, d'un personnel, d'un professionnel de la santé. Des gens qui ont rencontré le Christ et qui peuvent témoigner de Jésus et vous inviter dans ce lieu pour que vous aussi vous puissiez rencontrer celui qui guérit les cœurs brisés. Oui, notre Seigneur Jésus est tout ce dont nous avons besoin pour cicatriser. Si nous le chantons, si nous le célébrons, si nous le jouons, si nous le partageons, si nous le témoignons, si nous le vivons, c'est parce que nous avons expérimenté cela dans notre cœur, dans notre vie. Et tout comme les blessures sont venues par les relations, la guérison viendra aussi par les relations. Jacques 5,16, confessez vos péchés, vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Afin d'être guéris. Et l'Esprit Saint se sert des relations humaines et divines avant tout pour nous guérir en profondeur, pour nous guérir durablement. D'abord, le Saint-Esprit va nous conduire à nous convaincre de péché. Le Saint-Esprit va nous conduire à sortir de cet esprit de victimisation. Il y a toujours des gens qui se cachent derrière leurs blessures et qui se victimisent. C'est pas ma faute, c'est la faute à mon père, c'est la faute à ma mère, c'est la faute à la société, c'est la faute à mon frère, à ma sœur, j'arrive pas à m'en sentir, pasteur au secours, etc. Mais arrête de regarder à ça, regarde à Jésus. Si vous passez votre temps à regarder votre blessure sans vous en occuper, elle va s'infecter, elle va s'approfondir et bientôt il va falloir couper le bras. Alors arrêtez de vous amputer dans la tête, de vous amputer dans vos sentiments. Mais permettez au Seigneur de poser sa main, parce que lui veut et il peut vous guérir. C'est une foi sincère. Et à cette foi sincère que le Seigneur répondra. C'est à cette foi authentique et profonde que l'action du Saint-Esprit viendra en profondeur dans votre vie pour guérir votre cœur qui a été brisé. Il y a des guérisons certes personnelles, mais il y a beaucoup de guérisons qui sont relationnelles. Et nous avons besoin de cicatriser et de guérir d'abord pour être capable ensuite de pardonner à celle ou à celui qui nous a blessés. Souvent, nous avons vu dans le corps de Christ, dans nos communautés, dans nos assemblées, dans nos églises, souvent nous avons vu des hommes et des femmes qui sont venus avec le cœur brisé et qui sont repartis avec un cœur métamorphosé, changé, transformé, avec une capacité de pardonner et d'aimer. Et nous avons vu ces mêmes personnes aller trouver un père, une mère, un frère, une sœur, un employeur, un collègue de travail, et leur demander pardon alors que c'était plutôt à eux de demander pardon, mais eux ont pardonné leurs offenseurs, ont pardonné ceux qui les ont brisés, ceux qui les ont blessés. Et ça fait parfois le chemin dans l'esprit de celle ou de celui qui a été l'offenseur, de celui ou celle qui a blessé ou brisé. Ça fait parfois le chemin. Et ça a réveillé la responsabilité, ça a réveillé la douleur aussi. Parce que vous ne pouvez pas blesser sans vous blesser. Vous ne pouvez pas briser sans que vous vous brisiez quelque part. Cela n'existe pas. Car ce que vous faites, même les cœurs les plus durs, ce que l'on peut faire à l'autre, on se le fait à soi. C'est une loi, c'est un principe. Nous sommes toujours personnellement responsables de ce que nous faisons de nos blessures. Voulez-vous continuer à vous lamenter sur vos blessures ? Voulez-vous continuer à vous apitoyer sur vous-même ? Aussi, nous ne pourrons jamais mettre nos blessures derrière nous sans les avoir d'abord mises devant nous. Si vous voulez que les choses soient réglées et appartiennent au passé, il faut que dans le présent, vous les régliez maintenant. Et pour ce faire, nous devons assumer la responsabilité de nos propres choix, même en tant que victime. Ou je choisis, comme je le disais, de me lamenter sur moi-même, ou je continue de vivre dans le déni, ou je choisis de remettre tout entre les mains de Dieu. Ce que je suis incapable de faire, Seigneur, au secours, aide-moi. Ce qui m'est impossible, Seigneur, toi le Dieu de l'impossible, Seigneur, rends-le possible. Jésus-Christ est venu pour cela. Il a tout accompli pour cela. Il a brisé la loi du péché, la loi de la malédiction, la loi de ce qui nous a blessés et meurtris. Et par ses vertus guérissantes, bénissantes, par son amour et sa puissance, il est celui qui va cicatriser nos cœurs brisés et nous rendre capables, alors à notre tour, de pouvoir prendre notre vie en main et d'aller vers celle ou celui qui nous a blessés et de lui parler de l'amour de Dieu. Et cela commence par le pardon. De toute façon, cela commence toujours par le pardon. Avant que Dieu se soit réconcilié avec nous, Dieu d'abord nous a pardonnés. Et parce que Dieu nous a pardonnés, alors que c'était nous quand même qui devions faire le premier pas, mais Dieu aurait attendu jusqu'à ce jour pour que nous fassions le premier pas. Donc lui, il a fait le premier pas. Alors que c'était lui l'offensé, et nous qui l'avions offensé, Dieu fait le premier pas et il nous pardonne. En Jésus-Christ, Dieu nous pardonne. En Jésus-Christ, le monde entier est réconcilié. Par Jésus-Christ, et Dieu est réconcilié avec le monde par Jésus-Christ. Mais il appartient à chacun de ce monde de l'être avec Dieu. La table dressée, les couverts sont mis. Dieu invite l'humanité tout entière à se réjouir et à faire la fête à sa table, dans sa maison. Mais il appartient à chaque être humain de répondre à cette invitation, de prendre place. Et pour prendre place, il faut passer par la croix de Jésus-Christ. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont blessés avant de pouvoir vivre la liberté que Dieu veut pour nous, en pardonnant selon le modèle qui est en Christ. Le pire de nous et l'amour incommensurable, inégalable, ineffable, incomparable de Dieu se sont rencontrés à la croix. Là, Christ m'a pardonné. Là, Jésus a payé pour mon péché, mes péchés. Là, il m'a réconcilié avec mon Créateur qui est devenu mon Père, mon Papa céleste. Pardonné, il m'a donné la capacité de pardonner à mon tour pour vivre libre et guéri. Dieu fait du pardon la pièce maîtresse du processus de notre guérison. Pour que mon cœur brisé soit guéri, pour que mon cœur blessé soit guéri, cela passe par le pardon. J'ai eu, par la grâce de Dieu, la possibilité de rencontrer le Seigneur, ou plutôt d'être rencontré par le Seigneur. Cela s'est passé un vendredi soir du mois de mai 1977 dans la ville de Cercasté, à quelques kilomètres de la ville de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous revenions d'une réunion de prière. Cette dame m'avait rendu témoignage à la gare de Pau, et depuis, je suivais les réunions le jeudi. Le samedi, j'étais au presbytère avec l'abbé Edmond Laporte, et je préparais la partie de la messe qui s'appelle la prière universelle, et le dimanche, j'étais à la paroisse Saint-Pierre d'Orthès, et le jeudi, à l'église évangélique, Assemblée de Dieu de Pau. De janvier à mai, en semaine à l'Assemblée de Dieu, le week-end dans l'Église catholique. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas marcher comme ça. Un pied sur le trottoir, un pied sur la route, aide-moi à comprendre. Le dernier dimanche, où j'étais dans cette paroisse, il y avait un prêtre jeune, charismatique, dynamique, qui animait la messe. Mais le vendredi qui a suivi, après la réunion de prière, en quittant cette assemblée de Dieu, après la réunion de prière, en allant chez cette dame qui m'avait parlé du Seigneur avec d'autres personnes, là, on s'est retrouvés dans sa salle à manger en cercle. Je ne savais pas que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. J'avais commencé à lire la Bible par l'Évangile, et au moment où les frères et sœurs ont commencé à prier, j'ai senti comme une présence qui est venue sur moi. Et là, il y a eu une conviction, jamais, pourtant combien de fois je me suis confessé, Dieu le sait, mais il y a eu là une conviction de péché, une conviction que le problème c'était moi, c'était pas mon père, ma mère ou mes sœurs, mon professeur, mais le problème c'était moi. Il y a eu cette conviction de péché qui est venue sur moi, et là j'ai commencé à pleurer. Et puis à un moment donné, il y a eu cette vision que je n'oublierai jamais. La tête du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, couronnée d'épines, là sur la croix. Cette tête était tournée, et lentement, cette tête s'est tournée vers moi. Et au moment où ses yeux ont croisé mes yeux, j'étais comme pénétré par l'amour de Dieu. Je me suis effondré, et là j'ai compris que c'est pour moi que Jésus a donné sa vie à la croix. Jamais j'ai pleuré comme cela de toute ma vie. Je me suis retrouvé complètement par terre, effondré. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé, comme un poids m'a quitté et monté vers le ciel. Et immédiatement, j'ai senti comme une couverture, comme quelque chose qui m'enveloppait d'amour et de douceur. Et quand je me suis relevé de cette expérience, eux, ils savaient, ils venaient de vivre en direct la nouvelle naissance. Quand je me suis relevé de cette expérience, mon regard sur ceux qui étaient autour de moi, sur mon papa, ma maman, sur mes sœurs, mes professeurs, sur la création tout entière. Depuis ce jour, mon regard a été totalement changé, totalement transformé. Je n'ai plus jamais vu la création et les créatures de la même façon, de la même manière. Jésus venait de changer mon cœur, de changer ma vie, d'ôter mon péché et de me transformer. C'est la plus belle, la plus grande des expériences. Mon cœur brisé a été cicatrisé. Mon cœur blessé a été cicatrisé. La blessure est là, je la vois, je peux la toucher, mais elle me fait plus mal. Je peux la regarder, elle me rappelle des souvenirs, mais c'est guéri, c'est cicatrisé. Tout est réglé, parce que d'abord, ça a été réglé chez moi, avant de pouvoir régler chez l'autre. Et la plus grande invitation que nous pouvons vous faire cet après-midi, c'est de vous tourner vers le Seigneur Jésus. Prions maintenant notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, toi qui règnes dans les cieux,